Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un baril de pétrole vendu à un prix négatif. C'était le 20 avril, les cours ont ensuite un peu remonté, mais nous avons voulu mieux comprendre cette information. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment en sommes-nous arrivés là? Code Source refait le film des événements avec Erwan Beneze, journaliste au service économie du Parisien, en charge notamment de l'énergie.
Ne l'appelez plus l'or noir. Le prix du baril de pétrole américain s'est littéralement effondré cette nuit pour passer même en négatif à moins -$37.63.
Erwan Beneze, le lundi 20 avril au matin, toutes les radios donnent une info surprenante. Le prix du pétrole est devenu négatif.
Effectivement, en une journée, le prix du baril de pétrole aux États-Unis a chuté et passé sous la barre du zéro pour descendre à moins $37.
On va voir ensemble ce que ça signifie réellement et comment on en est arrivé là. On va refaire le film des événements jusqu'à cet effondrement. Mais d'abord, expliquez-nous comment fonctionne, dans les grandes lignes, le marché du pétrole.
Alors, il y a finalement pas un, mais deux marchés, un peu comme beaucoup de matières premières. Vous avez un marché de gré à gré, c'est-à-dire un marché au comptant, un marché simplement physique où il y a un acheteur et un vendeur. On fait un contrat, alors ça peut être un contrat immédiat ou un contrat sur le long terme pour une livraison d'une certaine quantité de pétrole. Et puis à partir des années 80 et la financiarisation de l'économie mondiale sous la présidence de Ronald Reagan aux États-Unis, vous avez des marchés boursiers qui se sont créés autour des matières premières, dont celui du pétrole, avec ce qu'on appelle un marché à terme où vous prenez des options pour un achat d'une certaine quantité de pétrole à une date donnée. Ça a amené en fait des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs du secteur pétrolier, c'est-à-dire des investisseurs et au-delà de ça des traders dont le travail va être de parier à la hausse ou à la baisse sur les cours du pétrole.
Quelle est l'origine du marché du pétrole? Comment tout a commencé?
En fait, dès le 19e siècle, on utilisait le pétrole essentiellement pour l'éclairage. Avant même les premiers forages, on récoltait le pétrole à la surface du sol ou de l'eau. Et puis en 1859, il y a le tout premier forage, alors pas très profond, hein, parce qu'il est à moins 21 mètres en Pennsylvanie. Et en fait, ce forage va donner naissance à une ruée vers l'or noir dans cet état et puis plus globalement partout aux États-Unis, un petit peu comme 10 ans auparavant avait eu lieu une ruée vers l'or en Californie.
Quelles sont les autres grandes dates des débuts du marché du pétrole?
En fait, il y a une date marquante, c'est 1886 en Allemagne, la naissance du moteur à explosion par Daimler et Benz, et quelques années après, la production à grande échelle aux États-Unis par Ford de l'automobile. Et c'est là vraiment que le pétrole va devenir une denrée extrêmement importante.
Et la demande va augmenter avec le développement des transports au niveau mondial.
C'est l'automobile d'abord, et puis c'est les transports d'une manière très générale, le transport maritime, le transport aérien, le transport ferroviaire, tout ça demande d'énormes quantités de pétrole.
Au cours des dernières décennies, les cours du pétrole ont connu plusieurs crises.
La première grande crise, c'est 1973, liée à la guerre du Kippour. Là, les prix du pétrole sont multipliés par 4. À l'époque, le prix du baril était à $4 et il a flambé à $16. Et ça a été suffisant déjà pour créer une crise. Deuxième crise, c'est 1979, le second choc pétrolier, lié notamment à la révolution iranienne. Là aussi, les prix sont multipliés par 2,5 et passent de $20 à $40. Et puis vous avez comme ça des crises successives, soit pour des chutes de prix, soit des prix à la hausse, à chaque fois avec des conséquences économiques extrêmement importantes.
En 2008, juste avant la crise des subprimes, le pétrole était au plus haut.
Effectivement, depuis 2003, on observait une montée progressive des cours du baril de pétrole et jusqu'à 2008, où on va atteindre en juillet 2008 un niveau absolument historique, puisque le baril de pétrole s'échange à ce moment-là à 147 dollars.
Erwan Benezé, comment évolue ce marché du pétrole ces cinq dernières années, on va dire?
Il est plutôt stable pour une raison simple, c'est que les pays producteurs se sont mis d'accord, alors notamment les pays producteurs de l'OPEP et puis d'autres pays comme la Russie, ce qu'on appelle l'OPEP+. Dès 2015, à un moment où les cours s'étaient effondrés, ces pays-là se sont entendus pour contenir la production, ce qui permet de ne pas faire chuter les prix.
L'épidémie de coronavirus débute fin 2019 en Chine.
L'inquiétude en Chine où un nouveau type de coronavirus serait à l'origine d'une épidémie de pneumonie selon les...
Des dizaines de millions d'habitants de Wuhan et de sa région sont confinés à partir du 20 janvier. Erwan Benezé, quelles sont les conséquences à ce moment-là sur les cours du pétrole ?
Conséquence directe qui est déjà une baisse du niveau de consommation. Alors, c'est pas une baisse de la consommation, c'est un ralentissement finalement de cette consommation. Et puis, il faut savoir que les marchés, notamment du pétrole, sont très sensibles et anticipent les crises, ce qui fait que déjà, ils se projettent sur une chute de la consommation et les prix commencent effectivement à baisser drastiquement.
Quels secteurs sont touchés par le ralentissement de la consommation en Chine ?
Quasiment tous les secteurs, mais en premier lieu, évidemment, le transport aérien, l'industrie automobile, puisqu'il y a beaucoup d'usines en Chine, y compris de constructeurs étrangers, mais qui sont en partenariat avec des locaux, le tourisme, etc., etc. Tous les secteurs sont touchés.
Le 13 février, l'Agence internationale de l'énergie publie son rapport mensuel. Il prévoit une baisse de la consommation mondiale de pétrole pour la première fois depuis 10 ans.
C'est une annonce effectivement d'importance puisque en fait depuis plus de 10 ans, la consommation ne cesse d'augmenter pour une raison bien simple. Même si en Europe et un petit peu moins aux États-Unis, on essaie de travailler sur l'efficacité énergétique, vous avez d'autres pays dits émergents qui ne le sont plus vraiment, qui poussent la consommation à la hausse, à commencer par la Chine et l'Inde par exemple.
Et à partir de là, la consommation de carburant ne va faire que chuter avec la généralisation des mesures de confinement en Europe, notamment dans la première quinzaine du mois de mars.
Ça aboutit à l'arrêt de la moitié de l'économie dans le monde. Donc, qui dit économie arrêtée dit chute de la consommation. Il y a beaucoup moins de besoin de pétrole. C'est très, très simple. En France, vous n'avez plus de voitures dans la rue. Les voitures consomment de l'essence qui est raffinée par du pétrole brut. Donc, la demande chute et chute même de manière drastique puisque au mois de mars, la consommation de pétrole dans le monde aura chuté de 30% et elle sera encore de 25% au mois d'avril. Donc, avec des conséquences très, très fortes sur le secteur.
Les 5 et 6 mars, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateur de pétrole se réunit en urgence à Vienne, en Autriche, où se trouve son siège. Pourquoi ?
Alors, elle se réunit avec d'autres pays partenaires, dont la Russie, l'OPEP+, avec un objectif extrêmement simple, essayer de réduire la production, en tout cas de la contenir, ne pas produire plus, pour essayer de lutter contre la chute des prix qu'ils sont en train d'observer.
Mais les pays qui font partie de l'OPEP+, sont très loin de tous s'entendre.
C'est une sorte de billard à trois bandes entre les grands acteurs producteurs de pétrole que sont l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis. En fait, chacun cherche à augmenter ses parts de marché, à avoir le plus de clients possible. Ils sont prêts à brader leurs prix, notamment pour pouvoir piquer des acheteurs à leurs voisins, à leurs concurrents.
Donc, ils n'arrivent pas à s'entendre sur le fait de moins produire, c'est ça ?
Exactement. La Russie ne veut plus moins produire pour contenir les prix.
Ici, ce ne sont pas les chiffres d'experts qui fonctionnent, mais la politique. Les Russes vont résister jusqu'au dernier moment pour ne pas réduire leur production.
Ils sont prêts à brader leur pétrole pour pouvoir effectivement garder leurs clients au détriment des États-Unis. Et donc, chacun finalement n'arrive pas à se mettre ensemble. Chacun reprend ses billes et produit comme il veut. Et ça va alimenter encore plus la baisse des prix du pétrole.
Deux jours après l'échec de la réunion de Vienne, l'Arabie Saoudite annonce même augmenter sa production de 25% à partir du mois d'avril.
Là, l'Arabie Saoudite donne l'impression d'en faire qu'à sa tête et augmente sa production de moins de 10 millions de barils par jour à plus de 12 millions, ce qui là encore va contribuer à la chute des prix.
Et d'autres pays continuent de produire plus.
Tout le monde fait pareil, la Russie, les États-Unis. Il faut savoir que c'est compliqué, notamment pour les États-Unis, par exemple, de fermer un puits de pétrole. Ça coûte cher, ça le met même en danger. Et donc, les producteurs locaux aux États-Unis se refusent à contenir leur production.
Au même moment, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclare que l'épidémie de Covid-19 est désormais une pandémie. Cette propagation inquiète les marchés financiers.
La chute de l'économie, la chute de la consommation est mondiale. C'est vraiment la bérésina sur les marchés financiers, notamment les marchés du pétrole, où le pétrole continue à chuter et descend parfois sous la barre des $20 le baril.
Du coup, un problème va se poser, c'est celui du stockage du pétrole.
Il y a des grands sites de stockage un peu partout dans le monde. Et puis, à un moment, les cuves sont pleines. Ça pose un problème physique de stockage, à tel point, c'était déjà arrivé en 2015, que quand on ne sait plus où mettre le pétrole, eh ben, on le met sur les supertankers, qui sont d'habitude juste des réservoirs pour transporter le pétrole sur la mer. Et là, vous avez ces grands bateaux qui sont loués bien plus cher que d'habitude pour stocker le pétrole dans les embouchures des ports en attendant que la situation s'améliore.
Le secteur est en crise, notamment aussi aux États-Unis.
Il faut savoir que depuis 2015, on a développé une technique dite de fracturation hydraulique, c'est le pétrole de schiste ou le pétrole de roche-mer, qui a permis aux États-Unis en 2019 de devenir le premier pays producteur au monde. C'est ce qui a aussi contribué d'ailleurs à la chute des prix du pétrole, parce que avant, les États-Unis achetaient du pétrole à l'étranger et là, en fait, ils le produisent pour leur propre consommation, mais c'est autant de pétrole qui n'est plus vendu aux États-Unis qui doit trouver acquéreur ailleurs. Le pétrole de schiste, ce sont des milliers de petits producteurs aux États-Unis pour un pétrole dont l'équilibre économique est autour de $40 le baril. Donc quand vous descendez en dessous, c'est le risque que ces milliers de producteurs mettent la clé sous la porte. Et comme l'a dit Donald Trump, c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés.
Comment est-ce qu'il réagit, Donald Trump, justement ?
D'habitude, il pense plutôt aux automobilistes. Et là, pour le coup, c'est une main tendue au secteur pétrolier. Et il annonce par tweet que le gouvernement américain va racheter du pétrole pour les réserves stratégiques. Il faut savoir que chaque pays a des réserves pour pallier à des coups durs. Et donc là, il annonce qu'ils vont racheter 75 millions de barils aux producteurs, à la fois pour pouvoir déstocker. Et le pétrole est tellement bas que ça permet au gouvernement américain d'acheter du pétrole peu cher.
Le 9 avril, les principaux pays producteurs de pétrole se réunissent, cette fois par visioconférence. Ils se mettent d'accord pour réduire leur production de 10%, mais le prix du baril continue de baisser.
Dans le contexte mondial de la pandémie de coronavirus, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. En fait, ça ne suffit plus, alors que d'habitude, quand l'économie fonctionne normalement, effectivement, une telle annonce a un effet immédiat sur les marchés du pétrole. Mais là, en fait, la chute de la demande est telle que ça ne va pas inverser la tendance.
Le pétrole américain s'est vendu à prix négatif, incroyable, pendant quelques heures aux États-Unis hier. Est-ce qu'on va bientôt rouler avec de l'essence gratuite ?
Erwan Benezé, on en arrive au point de départ de cet épisode et cette info spectaculaire. Le 20 avril, le cours du pétrole américain atteint les moins $37 le baril. D'abord, ça veut dire quoi ?
Ça concerne l'un des deux grands pétroles de référence. Il y a le Brent qui s'échange à Londres, le Brent de mer du Nord. Et puis aux États-Unis, à New York, s'échange le WTI, c'est le West Texas Intermediate. Ça veut simplement dire que quelqu'un qui a acheté du pétrole et qui finalement ne peut pas le prendre parce qu'il n'a pas la place pour le stocker, cherche à le revendre et comme personne ne veut l'acheter, il est prêt à payer le futur acheteur $37 par baril de pétrole pour qu'il lui prenne ce pétrole qu'il a sur les bras.
Pourquoi ne pas le stocker et le garder pour plus tard ?
Parce que comme la demande a chuté au mois de mars de 30%, les cuves sont pleines, il n'y a plus d'endroit pour stocker le pétrole.
Et ça coûterait trop cher finalement de stocker le pétrole pour le revendre plus tard ?
En fait, tous les endroits où il resterait encore un petit peu de place, il y a une inflation de l'allocation. Par exemple, je parlais de ces supertankers qui peuvent éventuellement stocker du pétrole. Les prix de location par 24 heures ont été multipliés par 5. Donc, ça coûte presque plus cher de stocker le pétrole que de le revendre à perte à quelqu'un.
Ça, c'est un phénomène réel ou un phénomène financier ?
C'est au départ un phénomène financier, l'inversion des cours négatifs, mais qui sont basés sur quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement réel, qui est le stockage. En fait, c'est très simple. Vous avez une cave dans votre maison, cette cave, elle est pleine. Vous avez acheté du matériel que vous avez besoin de stocker. Donc, il faut vider votre cave. Vous faites un vide-grenier de week-end, et puis personne ne vous le prend parce que tout le monde est dans la même situation que vous. Bah, vous bradez vos prix, ça ne fonctionne pas encore. Vous cherchez à vendre à perte, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, vous allez être presque prêt à payer quelqu'un pour venir retirer sur le trottoir le matériel dont vous voulez vous débarrasser, au risque sinon de payer une amende à la voirie.
Le Brent, lui aussi, chute ?
Il chute lui aussi, mais il ne connaît pas dans la même mesure des problèmes de stockage et donc il n'y a pas de cours négatif pour le Brent.
Est-ce qu'on avait déjà vu ça, des prix du baril négatifs ?
Sur les cotations de référence que sont le Brent et le WTI, non, jamais. Ce qui a pu arriver de manière très circonscrite, c'est que sur des échanges de gré à gré, dans des contrats entre des producteurs et des acheteurs, à un moment qu'il y a un problème de stockage local et donc vous ayez des prix négatifs, mais pas sur du pétrole de référence.
Erwan Benezé, un pétrole aussi peu cher, quelles conséquences ça peut avoir pour l'économie ?
Alors c'est une catastrophe pour tous les producteurs et exportateurs de pétrole, mais c'est aussi une catastrophe pour les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite, la Russie, le Venezuela, le Niger, les États-Unis, etc.
Concrètement, ces pays vont connaître une crise encore plus violente que les autres ?
Pour des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, les finances publiques proviennent aux deux tiers de la manne pétrolière. En Russie, c'est un tiers. Donc pour tous ces pays-là, ça va être des rentrées d'argent en moins avec des conséquences économiques et sociales.
Cette baisse, elle va profiter aux automobilistes en France ? Est-ce qu'on va avoir du carburant moins cher à la pompe ?
Mécaniquement, oui. D'ailleurs, c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines. Mais finalement, moins que pourraient l'espérer les automobilistes. Pourquoi ? Parce que dans un pays comme la France, le litre de carburant est taxé aux deux tiers. Donc, in fine, à la fin, à la pompe, seulement 20% du prix du litre d'essence provient du prix du baril de pétrole brut.
Comment peuvent évoluer les prix du pétrole dans les mois qui viennent ?
On peut espérer qu'à un moment donné, la crise du coronavirus commencera à être derrière nous, que la consommation, l'activité économique va relancer, donc ça va ramener les prix un peu à la hausse. En revanche, il faut savoir que les compagnies pétrolières aujourd'hui ont stoppé tous les investissements. Ces investissements-là, c'est du manque à produire dans quelques années, donc ils risquent d'accentuer le déséquilibre entre l'offre et la demande. Une offre insuffisante pour une demande qui, elle, aura réaugmenté. Et là, on peut craindre un contre-choc pétrolier avec une flambée des prix du pétrole.
Erwan Benezé, un pétrole aussi peu cher, ça risque aussi de freiner le développement des énergies renouvelables ?
Les énergies renouvelables sont une ressource énergétique relativement récente et donc encore assez chère. La rentabilité économique du renouvelable ne tient pas la route par rapport à celle du pétrole. Tout le monde va être tenté de continuer à consommer du pétrole comme on le fait aujourd'hui et ça va freiner, voire stopper le développement de l'énergie renouvelable au détriment donc de l'environnement.
Merci à Erwan Benezé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Genest, réalisation Julien Moncouquiole.